Il suffit d'imaginer une petite glissade super paisible sur les eaux de la Semois en Belgique avec un martin pêcheur qui frôle la surface.
Ouais, c'est vraiment l'image parfaite du tourisme lent en fait.
Carrément. Mais ce qui ressemble à des vacances ultra tranquilles repose en fait sur une véritable machine de guerre. Dans notre plongée en profondeur aujourd'hui, on explore comment un outil de survie extrême, genre inventé dans l'Arctique il y a 4000 ans et fait en os de baleine, a fini par redéfinir toute une vallée européenne.
C'est un sacré grand écart, ouais.
Ah, ça c'est sûr. Je suis fascinée par cette histoire. Bon, décortiquons tout ça. Comment on est passé de la chasse aux phoques dans les glaces aux vacances en Ardennes ?
Tout s'est joué sur une révolution matérielle assez incroyable en fait. Pour vraiment comprendre, il faut regarder le kayak inuit originel, le kajak. À la base, c'était une structure ultra légère d'une quinzaine de kilos.
Donc vraiment très très léger.
Exactement. C'était façonné en bois ou en os et on tendait par-dessus des pots de phoques qu'on imperméabilisait avec de la graisse. C'était une pure merveille de furtivité.
Une vraie machine de chasse furtive quoi.
C'est ça. Mais pour que cette embarcation devienne l'outil de loisir grand public qu'on connaît, il a fallu attendre les années 70 et surtout une innovation décisive, le polyéthylène rotomoulé.
Rotomoulé, c'est-à-dire qu'on fait tourner du plastique fondu à l'intérieur d'un moule pour créer une coque d'un seul bloc sans aucune jointure, c'est bien ça ?
Ouais, c'est exactement le principe. Et du coup, ça crée une structure sans aucun point de faiblesse. Parce qu'avant cette technique, les modèles de sport étaient très souvent fabriqués en fibre de verre.
Ah oui, un peu comme ces vieilles voitures de collection des années 50. Enfin, magnifiques, mais qui volaient en éclats au moindre choc.
Ah, c'est une très bonne comparaison. Le plastique rotomoulé a complètement transformé cette espèce de coquille d'œuf en une vraie autotamponneuse indestructible.
Incroyable.
Et soudainement, une personne totalement débutante pouvait percuter les rochers schisteux de la rivière, sans couler. C'est très précisément ce changement technique qui a permis de démocratiser la pratique.
Et de faire naître une énorme industrie de masse sur la rivière. Ce qui est fou, en fait, c'est de se dire que cette industrie navigue aujourd'hui sur un paysage qui a une vie complètement différente.
Ah oui, la vallée a bien changé.
C'est clair. Parce qu'avant de devenir un parc national immaculé, cette même vallée de la Semois était recouverte d'une culture hyper étonnante au XIXe siècle, le tabac. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Absolument. Les terres alluviales qui bordaient l'eau étaient juste parfaites pour cette culture intensive. Mais bon, il y avait un défi logistique énorme pour les paysans.
Traverser la rivière.
Voilà. Il fallait bien traverser cette rivière très capricieuse pour transporter les récoltes d'une rive à l'autre.
Et c'est là que j'ai complètement bloqué sur nos notes en préparant l'émission. Pour traverser, ils ont inventé le pont de clé de la forêt. On parle quand même d'une structure qui exige 4 essences de bois différentes.
Oui, du chêne pour les piliers, du noisetier pour la flexibilité du plancher.
Et qui demande un jour et demi de travail acharné. Tout ça pour le démonter volontairement à l'approche de l'hiver. Enfin, je veux dire, ça n'a strictement aucun sens économique de construire pour détruire. Non.
Si on regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, ça paraît totalement contre-intuitif, ouais. Surtout que l'ingénierie moderne, elle cherche toujours à dominer la nature avec des tonnes de béton armé.
Grave.
Mais si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'était en réalité d'une intelligence redoutable. Au lieu de bâtir un pont en pierre rigide qui se ferait inévitablement arracher et pulvériser par la violence des crues hivernales, ils ont opté pour l'éphémère.
Donc ils ne combattaient pas la force des saisons ?
Non, du tout. Ils s'y pliaient avec beaucoup de souplesse.
On s'adapte au flux de l'eau au lieu de s'y opposer. Au fond, c'est exactement la même philosophie pour la personne qui est assise dans un kayak aujourd'hui.
Complètement.
Et d'ailleurs, depuis que la zone est officiellement un parc national, c'était en 2022, je crois, on ne plaisante plus du tout avec les éléments. Il y a des règles de navigation ultra strictes. L'accès n'est autorisé que si le débit se situe entre 2,2 et 50 mètres cubes par seconde.
C'est une fourchette qui est littéralement vitale. Parce que si le débit tombe sous les 2,2 mètres cubes, les embarcations raclent le fond et détruisent des écosystèmes fragiles en période de sécheresse.
Et au-dessus de 5 ans, j'imagine que ça devient dangereux.
Au-dessus de 50, les courants deviennent un danger mortel. Donc oui, l'humain doit impérativement se caler sur le rythme de la rivière.
Et cette adaptation, elle est aussi profondément physique. On a souvent l'image d'une personne qui tire sur l'eau avec des bras de bûcheron pour avancer.
Ah oui, le cliché classique.
Voilà. Mais en lisant les sources sur la biomécanique, on comprend que le corps doit plutôt fonctionner comme un ressort enroulé.
C'est tout à fait ça. Si on ne compte que sur la force de ses bras, on s'épuise en moins d'une heure.
C'est ce que je me disais. La vraie propulsion, elle vient de la rotation du torse.
Ouais, on bloque ses pieds sur les cales, on coince fermement ses genoux contre la coque, et c'est la rotation du torse qui se déroule.
Le dos pivote et toute cette énergie est transférée directement dans le bateau.
Exactement. C'est une illustration parfaite d'harmonie biomécanique. Sous ces airs de petite flânerie, c'est un véritable effort sportif. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'une bonne préparation est indispensable. En pleine saison, il faut quand même réserver son embarcation 15 jours à l'avance et surtout prévoir au moins 1,5 litre d'eau avec soi.
Ah ouais, faut pas y aller les mains dans les poches. Mais bon, cet effort en vaut largement la peine, surtout quand on observe les grands moments de communion estivale. Lors d'événements comme l'eau en fête à Vraisse-sur-Semois, la rivière se transforme en véritable scène avec des jongleurs, des cracheurs de feu.
C'est vraiment l'apothéose d'une vallée qui a su évoluer en douceur, tout en conservant la philosophie de ses ancêtres d'ailleurs.
C'est clair. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire au final? Que ce soit le kayak inuit qui glisse sur l'eau ou ce pont de clé qui s'efface en hiver, ces inventions nous rappellent vraiment que l'ingéniosité humaine brille le plus quand elle épouse les contraintes de la nature.
Une très belle leçon d'humilité face aux éléments.
Exactement. Et ce qui laisse vraiment matière à réflexion pour clore cette plongée en profondeur. À une époque où tant d'infrastructures massives souffrent face aux bouleversements climatiques actuels, on pourrait légitimement se demander quelles autres technologies modernes gagneraient à redevenir flexibles, voire complètement éphémères, pour survivre aux décennies à venir.
Ah, c'est une excellente question à se poser aujourd'hui.
Une belle idée à creuser la prochaine fois que l'on se laisse porter par le courant. Merci d'avoir exploré tout ça avec moi.